chemin de la connaissance. En première partie, Jérôme Peignot présente la machine et le merveilleux. Aujourd'hui, cinquième émission, les machines futuristes. Jérôme Peignot s'entretient avec Madame Blumen Kranz, chargée de cours au CNRS et auteur d'une thèse sur les futuristes.
Qui avait combiné, construit, animé d'une vie merveilleuse la merveilleuse automobile. L'automobile m'est plus chère, plus utile, plus remplie d'enseignements que ma bibliothèque, où les livres fermés dorment sur leurs rayons, ou que mes tableaux. Dans une automobile, j'ai tout cela, plus que tout cela, car tout cela est remuant, grouillant, passant, changeant, vertigineux, illimité, infini. Quand je regarde, quand j'écoute vivre cet admirable organisme qu'est le moteur de mon automobile avec ses poumons et son cœur d'acier, son système vasculaire de caoutchouc et de cuivre, son innervation électrique, est-ce que je n'ai pas une idée autrement émouvante du génie humain, de sa puissance imaginative et créatrice, que si je lis un livre de M. Paul Bourget? Est-ce que le moindre mécanisme qui transporte l'énergie motrice, la chaleur, la parole, l'image, par de minces réseaux de fils métalliques, n'implique pas une plus grande somme d'études, d'observations, d'efforts, de facultés supérieures? Elle fait partie désormais de ma vie. Elle est ma vie artistique et spirituelle. Autant et plus que ma maison, elle est pleine de richesses, sans cesse renouvelées, qui ne coûtent rien que la joie de les prendre au passage. Mais ce texte est d'Octave Mirbeau.
Oui, et j'avais choisi ce texte d'Octave Mirbeau pour montrer que les sept types de machines que Marinetti et les futuristes italiens ont développées de 1909 à 1944, jusqu'à la fin du mouvement, n'étaient pas une génération spontanée. Il y avait, au début du siècle, aussi bien en France qu'en Italie, un mouvement enthousiaste pour la machine. Ce texte d'Octave Mirbeau en est une preuve, il est écrit en 1907, mais il y a aussi en Italie un écrivain, Charles Morasso, qui écrivait dans la revue Florentine de Marzocco et qui a écrit un livre, L'artillère au mécanico, qui avait développé l'esthétique de la machine. Et je pense qu'il faut insister sur les antécédents de Marinetti pour expliquer le cri de son manifeste par 1909 dans le Figaro, une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux tels des serpents à la laine explosive, une automobile rugissante qui a l'air de pourrir sous la mitraille et plus belle que la victoire de Samothrace. Quand Marinetti a jeté ce cri, il a créé le scandale, même auprès de ceux qui le soutenaient le plus, puisque Marinetti était un écrivain qui travaillait d'abord à Paris et comptait parmi l'intelligence parisienne de très grands amis, mais il a vraiment scandalisé par cette chose qui paraissait être presque un sacrilège de prétendre que l'automobile devait être plus belle que la victoire de Samothrace.
L'idée qui a, j'allais dire, lancé les futuristes sur les rails, c'est l'idée que la machine est un être organique, un être vivant, presque.
Oui. Alors, au début, Marinetti exalte la machine de manière inconditionnelle. Pour lui, la machine est un mythe qui doit permettre l'âge d'or de l'humanité. Et c'est en approfondissant le thème de la machine qu'il finit par trouver que la machine est elle-même un être organique, doué de vie, de sensibilité, et que finalement, elle établit des contacts très étroits entre le corps humain et elle-même.
Do it.
Avant d'en venir donc à cet être organique, j'aimerais que vous nous parliez du mythe de la machine tel qu'il est.
Le mythe de la machine tel que l'a exposé Marinetti est un mythe très puissant. D'une part, la machine doit permettre l'âge d'or de l'humanité, nous sommes habitués depuis à ces idées, elle doit faciliter les tâches humaines, mais en même temps elle a une fonction éthique. La machine doit permettre à l'homme de devenir, de se purifier de tout ce qui est malsain en lui et par-dessus tout du sentimentalisme et de tout ce qui est imprécis, de la précision. Et Marinetti pensait que la machine parviendrait même à se transformer dans l'homme même, c'est-à-dire qu'il rêvait d'un homme mécanique aux parties remplaçables, comme il l'écrit lui-même dans son manifeste à la littérature futuriste, un homme qui serait délivré de l'idée de la mort et partant de la mort elle-même, cette suprême définition de l'intelligence logique, par la machine, puisque l'homme, les parties du corps humain seraient remplaçables, ce que la médecine a un petit peu prouvé depuis, l'homme est presque immortel aux yeux de Marinetti.
Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y avait dans l'arrière-pensée, une arrière-pensée de faire pièce au romantisme?
Ah, certainement. La machine est considérée comme un repoussoir à toutes les idoles romantiques. Le clair de lune, Marinetti a écrit en 1909 un manifeste intitulé sur le clair de lune, les cathédrales, les ruines et l'amour.
Et l'amour, parce qu'il y a même cette femme du groupe, dont je ne me souviens plus du nom, que vous avez entendu,
de Saint-Point,
a même fait, je l'ai vu à l'exposition qui a eu lieu au musée d'art moderne à Paris en 1973, un manifeste terrifiant sur l'amour et sur les... Contre le sentiment amoureux, enfin,
oui, c'est-à-dire
une violence incroyable.
C'est-à-dire que Marinetti a transmis à ses disciples l'idée que l'amour était un sentiment humain et trop humain, et que pour devenir le héros que doit devenir le futuriste, il faut se débarrasser de toute humanité, de toute impureté sentimentale.
En même temps, ces gens se prétendaient des anarchistes.
Alors, non seulement ils se prétendaient des anarchistes, mais encore ils l'ont été. Marinetti a collaboré à des feuilles anarchistes italiennes qui étaient publiées en Suisse. Il assistait à des réunions anarchistes aussi bien à Paris qu'à Milan. Et il pensait qu'il fallait créer une nouvelle société, qu'il fallait absolument désinstitutionnaliser toute la société culturelle, surtout et d'abord, pour créer une société libre.
Bon, mais pouvez-vous nous parler alors de futuristes eux-mêmes, en dehors de Marinetti, des œuvres auxquelles le futurisme a donné naissance dans ses principales manifestations, enfin.
Alors, c'est une très longue histoire.
C'est une très longue histoire, oui.
Et qui est mouvementée et diverse et qui n'est absolument pas linéaire. Mais on peut dire que c'est Marinetti qui, par publication de ses manifestes, il en a publié une quinzaine avant que les autres arts en prenaient, puisqu'au début, le futurisme italien était exclusivement un mouvement poétique. On peut dire que c'est l'action de Marinetti, très importante à Milan, qui a attiré à lui d'abord les peintres futuristes. Par exemple, il n'avait jamais pensé à faire du futurisme un mouvement de peinture. Ce sont des peintres qui travaillaient déjà à Milan et qui étaient déjà confirmés. Ils sont venus lui demander d'écrire eux-mêmes un manifeste.
Vous ne croyez pas que ce sont les manifestes de Marinetti qui ont suscité les talents de Cara ou... Non,
déjà des gens qui étaient peintres et pas de confirmés. Dalla avait déjà un certain âge même, il avait déjà exposé... plusieurs fois, il était déjà très connu, mais ce que les manifestes de Marinetti ont créé, c'est une cohésion de groupe, un désir d'appartenir à un groupe, et qui, on le constate quand on regarde les œuvres, ont créé un changement complet du style de ces peintres. Si nous regardons les toiles de Boccioni, de Cara, de Russolo, de Dalla, avant qu'ils ne soient futuristes, il n'y a aucun commun dénominateur possible. Si au contraire, on regarde leurs toiles à partir du moment où ils ont adhéré au mouvement futuriste, il y a des dénominateurs communs, et justement, on retrouve l'esthétique de la machine.
Alors en quoi, justement, en quoi ces œuvres diffèrent, ces œuvres de Dalla ou de ce qu'ils faisaient auparavant, avant de connaître.
Elles diffèrent justement par l'adhésion au postulat de la doctrine marinettienne. Parce qu'on peut vraiment dire que le futurisme est une doctrine, et les postulats sont vraiment le mythe de la machine, et du mouvement, mais le mouvement qui est lui-même produit en somme par la machine, parce que si nous regardons des toiles de Boccioni, la ville se lève, des toiles qui décrivent des mouvements, sont des mouvements issus de la machine. Très souvent, nous avons ce que m'a dit le tram Severini, l'automobile en course de Russolo, le rythme d'automobile de Bala. À partir de 1910, où les peintres adhèrent au futurisme, il y a une esthétique commune qui est celle justement des postulats de la doctrine marinettienne à base du mythe de la machine et du mouvement qui est issu de la machine.
Confirmer ce que vous venez de dire, je crois qu'on pourrait citer ce passage de Marinetti. Il est certain qu'en admettant l'hypothèse transformiste de Lamarck, on doit reconnaître que nous aspirons à la création d'un type non humain dans lequel seront abolies la douleur morale, la bonté, le sentiment et l'amour, seul poison corrosif de l'inexorable énergie vitale, seul interrupteur de notre puissante électricité physiologique. Et c'est ce doublon de la machine qui apporte l'idée d'un homme-machine.
Oui, Marinetti voulait vraiment qu'on réalise un héros futuriste qui soit aussi parfait dans son fonctionnement que l'est la machine. Et puisque tout à l'heure vous me demandiez si les autres membres du mouvement futuriste avaient été influencés par ces mythes, on pourrait citer la très très belle sculpture de Boccioni, l'homme qui marche, le dynamisme du corps humain, où l'homme créé par Boccioni a une certaine protubérance dans le sternum créé par la machine qu'il conduit lui-même. C'est-à-dire que l'homme lui-même doit se transformer à l'instar des machines. La machine est un modèle pour l'homme, et elle est un modèle non seulement mécanique, mais encore un modèle moral, éthique, car elle est concise, elle est pure.
Alors là, on retrouve l'idée philosophique qui traîne et qui réapparaît, mais qui traîne depuis la Renaissance. Villard de Honnecourt avait dessiné déjà des hommes qui sont inscrits dans toute une construction géométrique. Geoffroy Torry avait construit des caractères d'imprimerie en fonction du corps humain. Ce rapport entre la machine et l'homme, cette intimité entre la machine et l'homme, véritable dans un sens, l'est aussi dans l'autre.
Oui, ce qui est de nouveau chez Marinetti, c'est la manière de concevoir que la machine transformera le corps humain. C'est pour ça qu'il a parlé de Lamarck tout à l'heure. Il ne se contente pas, comme Lamétrie par exemple, de parler de l'homme-machine, ou même comme Descartes, qui avait parlé des animaux-machines.
Son fameux double de sa fille Francine.
Il ne se contente pas de montrer le parallélisme entre le mécanisme du corps humain et celui de la machine, mais encore il pense et il espère que la machine permettra de transformer le corps humain et pour créer un espèce de héros invincible, un héros qui pourra, puisqu'il a des parties remplaçables, un héros qui pourra lutter contre tous les fléaux, puisqu'il pourra lutter même contre la mort.
C'est d'ailleurs ce que dit Fidèle Azari dans ce texte. La machine a enrichi notre vie, la machine a multiplié notre existence, la machine a détruit l'existence, la machine a augmenté notre niveau de vie. La machine que nous adorons avec notre foi enthousiaste de précurseurs et d'artistes, lavée de toute influence archéologique, nous délivrera de l'esclavage manuel et éliminera définitivement la pauvreté et par voie de conséquence la lutte des classes. On voit où nous en sommes aujourd'hui. C'est curieux de lire ça aujourd'hui. J'en continue encore un peu. La fabrication, la confection et la présentation des aliments, la démolition et la reconstruction des maisons, le chargement et le transport des machines et des hommes, la fabrication de tous les objets nécessaires ou agréables seront effectués avec une rapidité et une facilité surprenantes, non par une multitude d'êtres silencieux commandés sans fatigue par quelques privilégiés. Ces privilégiés auront obtenu comme spéciale concession de pouvoir se donner à tour de rôle et seulement quelques heures par jour l'agréable passe-temps de guider les équipes harmonieuses et élégantes des machines. Ah oui, c'est vraiment du futurisme, mais ce futurisme est déjà dépassé. Encore dit un mot de la musique futuriste.
Oui, alors en ce qui concerne la musique futuriste, d'emblée, les compositeurs futuristes ont voulu adhérer à ce mythe de la machine. Et nous avons les œuvres de Balilla Pratella, qui a été le premier musicien futuriste, qui a fait en 1920 un opéra qui s'intitule L'Aviator et Dro, où il a mis en musique en somme les sons de l'aviation, les bruits des moteurs, et il faut surtout citer l'extraordinaire manifeste de l'art des bruits de Russolo qui avait essayé de traduire énharmoniquement les vrombissements des moteurs, les vrombissements des machines, et dont une œuvre s'intitule Réveil de la cité, et qui est surtout faite de tous ces bruits de machines, aussi bien chez Russolo que chez Pratella. Et ensuite, il y a eu d'autres compositeurs futuristes comme Silvio Mix qui ont fait la musique pour la psychologie des machines, un ballet pantomime d'Ivo Panaggi. Et la machine tient donc un rôle central dans la musique futuriste, et elle est à la base, ça je crois qu'on peut le dire, de bien des tentatives modernes et même contemporaines de musique. On peut citer l'hommage qu'a rendu récemment Pierre Henry au Palais de Chaillot, en l'honneur à Russolo, où il s'est servi justement de...
Varèse, non, aussi.
Varèse a été...
Il y a une parenté entre Varèse.
Varèse connaissait très bien le manifeste de Russolo. D'ailleurs, Russolo a été à Paris dans les années 20, et Russolo était en contact avec tous les compositeurs modernes. Et Varèse a été influencé par Russolo. Il le dit lui-même, il y a un article de Varèse qui est apparu, je crois, dans la revue 391, où il essaie d'établir la différence qu'il y a entre Russolo et lui-même. Il ne méconnaît pas l'influence que Russolo a exercée sur lui. Je parlais tout à l'heure de la psychologie des machines, qui est un ballet pantomime. Il faut aussi signaler le rôle très très important qu'elle a dans le théâtre futuriste lui-même, dans la dramaturgie, et qu'elle a dans la scénographie futuriste. Marinetti a écrit une synthèse théâtrale qui s'intitule Locomotive, et une autre pièce qui est d'ailleurs surréaliste par certains côtés, où il y a la machine de l'an 2000 qui est un personnage de la pièce et que le chef de gare conduit dans les directions. Et alors, d'autre part, en scénographie, c'est extrêmement important puisque les Prampolini, par exemple, qui a fait énormément de scénographie, de décors et de costumes d'acteurs, s'est inspiré entièrement de la machine pour ses décors et pour ses costumes.
Mais alors, tout de même, je ne peux pas ne pas penser qu'un jour, l'un de ces hommes s'est tout de même aperçu du danger que représentait la machine.
Oui, alors autant l'adhésion a été totale dans les débuts du futurisme, de la part de tous les membres, autant est-on arrivé à des choses délirantes, comme le manifeste de Fidel Azari, l'aviateur futuriste, qui prévoyait de créer une société de protection de la machine, autant Ruggiero Vasari, dès l'année 1925, a introduit un esprit critique dans la thèse marinettienne.
Dans une pièce qu'il intitule « Le cycle de la machine » ou « Angoisse des machines », Vasari fait parler des personnages, n'est-ce pas, qui dialoguent avec les machines, et ces personnages s'expriment de cette manière. « Vous avez accéléré la pulsation de ce monde, mes créatures, fils mécanique de mon génie. Vous m'obéissez, mais vous ne me comprenez pas. Déshumanisez les hommes. Vous les rendez plus machines. Machines qui ne sont pas machines, hommes qui ne sont plus des hommes. Après nous, plus personne. » Là, on voit déjà...
Oui, alors, Ruggiero Vasari, il s'en explique lui-même dans une lettre Adjanelli, un autre dramaturge futuriste, était partagé entre l'admiration qu'il ressentait pour la machine, pour la perfection de la machine, et en même temps il était angoissé devant la mécanisation qu'elle opérait sur l'esprit humain.
C'était à quelle époque cela ?
1925, il a commencé en 1925.
C'était donc passé bien près de 15 ans au moins.
Ah oui, plus de 16 ans exactement.
Mais il va très loin parce que dans cette pièce, il va jusqu'à faire dire à un de ses personnages, en s'adressant à la machine, tu as changé le visage du monde et des choses, mais tu ne vis pas, tu construis des fantasmes.
Oui, il sait, d'une manière très critique, d'une manière très lucide et d'une manière très moderne, et il a su voir les problèmes que posait la machine, ce que Marinetti n'a jamais fait de son côté.
Et alors, est-ce que Marinetti connaissait déjà cette pièce?
Ah oui.
Et qu'en a-t-il dit?
Ah ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il avait
dit. Est-ce qu'il sait
Apparemment, il n'en a pas été trop gêné, puisqu'il a continué à avoir des rapports très, très actifs avec Vasari.
Et pourtant, il se trouvait en contradiction.
assistante de réalisation Colette Chemama.